La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique.
De retour en studio pour cette édition post-Grand Prix du Canada. Cette édition toute canadienne de l'épingle. Avec Jean-Maxime Sanssouci, Pierre-Alexandre Girard qui sont avec nous. Messieurs, comment allez-vous?
Je jubile, je flotte. Je viens de vivre le plus beau 4 jours de sport, de course de ma vie. Avec toutes nos festivités sur Crescent Park. Toi, tu étais VIP dans les paddocks. Samedi, les qualifs sur place. Dimanche, la course. Des safety cars, de la pluie, de la grêle, du soleil, de l'émotion. C'était absolument épique.
Ça existe-tu des Pepto pour le contenu? Parce que là, j'ai des ballonnements de F1, j'ai comme trop mangé de Formule 1 en fin de semaine.
Ça fait combien de temps que tu prépares celle-là? Ça fait à chaque fois qu'il nous en sort une, là, j'ai l'impression là, que, tu sais, le fameux meme dans lequel tu as la femme qui est tournée vers la droite et qui dit « Je suis certain qu'il pense à d'autres femmes. » Et là, t'as le gars qui est là, qui est couché de l'autre côté et qui pense à la Formule 1. Ça, c'est Pag, mais il pense à ses prochaines lignes qui vont arriver avec dans le prochain podcast. Messieurs, merci pour ce travail acharné ce week-end, tout le monde, et je vous remercie vous deux, Jean-Max et Pag. Je vais remercier également Hugo Reich qui est à la réalisation présentement, que vous ne voyez pas à la caméra, mais qui a été mon wingman dans les paddocks au circuit Gilles Villeneuve, une association absolument formidable. Je pense que les quatre ensemble, avec toute l'équipe de BPM aussi, c'est que Max était sur Crescent également pour animer tout ça. Le retour des sportifs, Gonzo et Georges, à qui on souhaite bonnes vacances par ailleurs. Et...
Puis l'épingle, on a vraiment sacré une volée au retour des sportifs, comment ça s'appelait, le défi
changement? Le Pit Stop Challenge.
Oh oui, ça, on va en parler.
Le Pit Stop Challenge. Mais d'abord, je vous remercie pour votre travail acharné, mais on doit également remercier notre commanditaire titre qui est derrière nous. Tout l'été, si vous voulez parcourir les paysages incroyables du Canada, vous pouvez le faire au volant d'un Payet. Dans la famille Payet, il y a encore plus de fans, plus de modèles et plus d'inventaires. Merci encore. Allez-y, n'hésitez pas si vous voulez un camion. OK.
Payet.
Payet. Ouais, s'en prenne un deuxième. Voilà qui est fait. Également, on tient à remercier Best Buy, qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chigan. Et les gars, vous voyez, j'ai eu la chance. C'est l'occasion, le Grand Prix. Là. D'ailleurs, si vous voulez dépenser la fin de semaine du Grand Prix, vous pouvez le faire à peu près partout. Mais je veux simplement amener une sensibilité. Hugo, peux-tu me lancer à la cascade noire, gars, là, s'il te plaît? Je veux simplement ajouter une sensibilité à l'importance de supporter les entreprises locales ici à Montréal qui vibrent au rythme de la Formule 1. Si vous voyez sur l'écran, il y a également la chemise « Salut Gilles » du Mano Cornuto Pit Crew. Si vous ne connaissez pas ce restaurant-là,
incroyable,
absolument magnifique, qui a été fait en édition limitée que Jean-Max a. J'ai la casquette avec laquelle je me suis promené. Elle est encore un peu mouillée d'ailleurs d'hier de ces fameuses cellules de pluie. Je ne savais pas que ça existait, des cellules de pluie. Mais ça, on l'a entendu souvent. On a entendu Meeker et GF, d'ailleurs, nos deux animateurs du Grand Prix, le dire souvent. Et depuis que j'ai eu l'occasion de m'asseoir en avant de Charles Leclerc jeudi, j'ai vu qu'il avait ce magnifique jersey de hockey.
Il est cœur, hein?
Puma, Ferrari. Je suis allé sur le site web. Il n'y en avait plus. C'était sold out.
Évidemment.
Et j'ai placé un petit appel, un petit texto à mon ami Max Bitton, qui est propriétaire de la boutique Fanabox dans le Vieux-Montréal, gros fan de F1, qui grosse communauté également. Il en reste en boutique, puis je suis passé le chercher ce matin. C'est pour ça qu'on commence l'enregistrement un peu en retard. Passé ce matin, on a eu du fun, on a échangé, on a parlé de plein d'affaires sur la F1. À un moment donné, deux passionnés qui commencent à se parler, ça commence à être long. Et j'ai réussi à me trouver ce magnifique jersey de Charles Leclerc que je suis content d'avoir acheté là parce que j'ai supporté une entreprise locale, bien sûr, aussi. Et je vous le dis, pas demander un 5% de rabais, je l'ai payé à 100%.
Et tu as déjà les couleurs de Ferrari, Greg, un peu en avance.
Oui, c'est pas un 44 que j'ai dans le dos, c'est bien un 16. Vous connaissez mon amour pour Lewis. Après ça, les fans qui nous écoutent, je vous Promets que les plugs commerciales sont terminés, mais je veux simplement dire, c'est même pas une plug commerciale, je le fais simplement par amitié. La boutique Fanabox va aussi avoir un concours pour la fête des pères. Donc, allez vous inscrire sur leur page de médias sociaux. Font tirer aucun achat requis, rien. Font tirer 250 $ comme ça pour les fans de F1, pour des cadeaux papa-fils. Vous savez que moi, c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai avec mon papa du Grand Prix de Montréal et de la fête des pères. Alors, vous allez vous inscrire sur leur page de médias sociaux. Puis il y a des beaux concours comme ça pour les fans de F1 qui nous écoutent. Les papas de n'importe quel âge, les fils de n'importe quel âge aussi, on vous encourage à le faire. Voilà qui est
fait. Et les filles, tiens. Hein?
Ben pourquoi pas? Pourquoi oui, effectivement. Pas? Le concours, c'est pour la fête des pères, mais si vous êtes une fille qui tripe F1 avec son papa.
F1 dans les fingles.
Dans les fingles. F1 dans les fingles. Messieurs, quelle édition épique du Grand Prix du Canada. J'ai passé la semaine à... D'ailleurs, avec PAG, on a échangé beaucoup pour trouver les Grands Prix les plus historiques qu'on a eu ici à Montréal. Montréal qui a marqué l'histoire de la Formule 1 également à plusieurs reprises. On ne reviendra pas nécessairement là-dessus. Nous, on a eu... On en reparlera plus tard là, des extraits qu'on a de cette entrevue avec Frédéric Ferret, Bertrand Godin qui est venu sur le podcast également. Quelle présence avec des S complètement incroyables. Et cette entrevue que j'ai réalisée avec Frédéric Brousseau qu'on va écouter aussi en fin d'émission. Le chef exécutif des opérations chez Williams. Édition épique, encore une fois. Et là, on va retourner à une ancienne formule qu'on avait, puis on va vraiment décortiquer le tout équipe par équipe. Puis je pense qu'en faisant ça, on va finir par avoir couvert l'émission complète. Il y a eu de l'action. Je pense que toutes les équipes, on pourrait passer 20 à 25 minutes à décortiquer toute l'action des pilotes qu'on a eu. Mais d'abord, rapidement, votre appréciation générale du Grand Prix de Montréal vis-à-vis toutes les éditions que vous avez vues depuis que vous êtes fan de Formule 1.
Ça va sûrement s'inscrire parmi les éditions les plus chargées de A à Z. Ça a même commencé vendredi avec les drains qui étaient trop... qui était trop rempli. On se souvient qu'il a complètement réduit la première séance d'essai libre. Puis ça a eu ensuite un incident sur tout le reste du week-end parce que les écuries n'avaient pas eu le temps d'étudier le nouveau revêtement autour du Grand Prix. Puis on sait, il y avait eu beaucoup d'améliorations aérodynamiques pour plusieurs écuries depuis le Grand Prix d'Imola. Donc juste un Grand Prix. Ensuite, tu ne peux pas faire des tests parce qu'à Monaco, ça ne sert presque à rien. Donc là, il fallait mettre beaucoup de temps en pratique. Et puis, étant donné donc il y a les drains ont cédé. Donc, puis il y a eu un drapeau rouge quelques instants plus tard. Une édition historique des qualifications avec une pole à égalité qui s'est arrivée.
Deuxième fois dans l'histoire.
Oui, ouais. Pour la deuxième fois dans l'histoire.
C'était Villeneuve, Schumacher, Frenzen.
Puis ensuite, quatre changements.
À Jerez en 2000, à 1997, d'ailleurs, cette fameuse édition du Grand Prix.
Trois pilotes qui sourient, tu sais. Tu vois juste leurs yeux, jeunes Jacques Villeneuve, Michael et Frenzen, tu vois juste leurs yeux quand ils se font dire que vous êtes trois égales. Cool. Tu vois leurs yeux qui sourient, qui sont comme « OK, wow, ça se peut pas cette affaire-là. »
Puis ensuite, avoir quatre changements de meneur pendant le Grand Prix du Canada, c'est exceptionnel. Puis justement, toute la semaine qui a mené au Grand Prix, dans le retour des sportifs, tu te souviens, ils nous ont demandé si le Grand Prix du Canada était un des plus spectaculaires du circuit. Puis je pense que les deux ont été d'accord pour dire que oui.
T'sais. Ben oui.
Ben oui, ESPN d'ailleurs qui ont fait un tweet hier, ESPN F1, en disant « Pétition pour qu'on puisse avoir les 24 courses au complet du calendrier à Montréal. » Et j'ai bien sûr partagé le tout avec la main dans les airs. Moi, donnez-moi ça toutes les fins de semaine, ça va me faire grand plaisir. Mais c'est aussi ça la Formule 1. Tu as des circuits comme ceux-là, tu as des circuits comme Monaco et ce sont des défis qui sont différents. Mm-hmm. Donc, il faut être généraliste en Formule 1. Oui, il faut être rapide, mais il faut pas juste que tu sois rapide. Puis on l'a vu en fin de semaine, Max n'était pas le plus rapide. Red Bull non plus, de loin. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Aucune erreur. Incroyable. Un parcours sans faille de Red Bull. C'est là que tu vois que tu n'as pas besoin nécessairement d'être le plus vite, mais quand tu fais pas d'erreur et quand tu limites tout ça, lorsque comment on dit ça en anglais, lorsque les dés sont jetés, que les cartes sont sur table, Red Bull est encore la meilleure équipe en Formule 1.
Permets-moi d'ajuster ton statement. Max Verstappen a fait une erreur. une seule de piste pendant le Grand Prix.
Au virage 2.
Ça aurait pu lui coûter la victoire, ne serait-ce qu'à cause du mauvais timing de la voiture de sécurité, du timing de la voiture de sécurité.
Devant moi, t'as raison, je vois Max qui roule sur le gazon. J'étais comme « Non! »
Et il l'a fait vendredi aussi. Là, ça a donné un moment très cocasse sur la radio. Là. Et je pense qu'ils sont quoi, 6-7 pilotes qui sont passés exactement à cet endroit-là. Donc, manquer le freinage dans la chicane, passer dans le gazon. Et aussitôt que les quatre roues arrivaient, tu voyais l'eau qui rebondissait partout. Ben oui. Et Max qui dit « Une petite excursion hors piste, haha! » Et son ingénieur dit « Oui, on a vu ça. »
On a tout vu ça.
Cette fameuse relation entre Max et son ingénieur. De ton côté, Jean-Max, toi, tu étais assis dans le Sénat tout le long du week-end.
Quel privilège absolument incroyable. Je reviens effectivement à samedi, troisième séance d'essai libre et qualif. Tu l'as dit, hein? C'était une séance d'essai libre ultra chargée. Les voitures étaient en piste le plus longtemps possible. Il fallait faire des tests suite au upgrade de Imola. Il fallait qu'on ait des données là, pour voir qu'est-ce qui s'en vient ce week-end. Là. Quel pneu marche mieux, à telle température, la pluie, c'est sec, c'est mouillé. Donc, beaucoup d'action. Après ça, ce qui est le fun à Montréal, c'est que tu prends une petite bière et tu t'en vas chiller à la plage, juste à côté, sur le bord de l'eau.
Ouais.
Puis après ça, tu prends un petit snack, tu reviens pour les qualifs. Qualifs endiablés, absolument épique. Après Q2, j'ai dû quitter parce qu'on a une petite marche hein, pour se rendre jusqu'à Jean Drapeau, où on enregistrait notre 2 heures spéciale épingle avec M. Ferret et Godin. Donc, j'ai regardé Q3 sous mon sel.
Moi aussi.
Une chance que je l'avais. Puis j'étais comme, oh wow, Russell, puis là, t'as Hamilton qui arrive, vroom, le Max, vroom, c'est comme dernier tour. Donc, l'évolution de la piste était ultra importante. Là. Tu sais, le dernier en piste, souvent, la piste est chaude, les pneus sont en température.
Puis là, c'est pour une des rares fois, c'est pas la dernière run qu'a eu la pole parce que Russell était 26 centièmes plus lent à sa dernière essai. Donc, un peu comme Jacques Villeneuve en 97 qui avait réalisé le meilleur temps, le premier à réaliser le meilleur temps. Il l'avait fait sur son premier essai et puis il n'a jamais réussi à l'améliorer. Donc,
Ce sont des tours magistraux là, que George ont sorti, Max également aussi. Et Lando qui avait la voiture la plus rapide en fin de semaine. J'aime ça que tu notes la plage. C'était très, très bien aménagé ce week-end, le Grand Prix. Le fan zone était au bon endroit.
Oui.
Et là, ça se traduit pas. Là. C'est vraiment comme ça que ça s'appelait. Là. On a tellement un bel endroit au circuit Gilles Villeneuve. Entrer et sortir, pas facile, mais c'est dans beaucoup de cas comme ça pour des circuits de Formule 1. T'sais, c'est pas évident d'aller mettre un circuit de Formule 1 en quelque part. Puis on n'a pas de stade de la NFL, comme à Miami, par exemple, ou un parc comme à Melbourne. C'était pas évident non plus de sortir. Il y a combien de total, c'était 347 000 en fin de semaine, je pense, qui a été dit sur F1 TV. Mais sortir tout ça d'une île, c'est pas évident non plus. Donc, ça, c'est le côté qui... C'est là où le bas blesse un peu au Grand Prix de Montréal. Mais une fois que tu es là, une fois que tu es sur le site, ça circule bien dans la majorité des endroits. C'est sûr qu'il y en a où est-ce qu'il y a des petits bouchons. Ça va toujours être normal. Mais je pense qu'on peut... je pense qu'on peut être fiers de notre Grand Prix du Canada. Puis de voir... on a pu le voir, Hugo et moi, les journalistes, à quel point ils apprécient être ici. Les pilotes également. Les équipes. On entendra Frédéric Brousseau en parler tantôt. Mais je pense qu'on peut être très, très fiers de faire partie de près ou de loin dans cette édition du Grand Prix.
Tu sais, puis je pense que c'est vraiment le spectacle qui a sauvé, qui sauve la Formule 1 à Montréal, tu sais, parce qu'il y a des villes beaucoup plus riches dans le Canada qui pourraient se permettre d'investir des sous dans le Grand Prix du Canada. Mais c'est vraiment l'appréciation des pilotes pour ce circuit mythique, puis qui offre toujours un spectacle extraordinaire qui le sauve année après année, ben contrat après contrat, tu sais.
Ouais, là, on est. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, on est encore en contrat jusqu'en 2031. Là. Donc, on est tout correct. Inquiétez-vous pas. Puis, écoute, je vois pas pourquoi ça quitterait Montréal non plus après 2031. Non,
tout le monde adore ça venir ici. Dans le fond, c'est un circuit de piste mythique avec Gilles et avec toute l'histoire de la course à Montréal, au milieu d'une forêt magnifique, bordée par de l'eau. et le fleuve.
Qui donne une vue imprenable.
C'est vraiment beau. Là.
Le avec plus beau point de vue sur Montréal, c'est vraiment
C'est vraiment écœurant.
Avec des marmottes.
Avec des marmottes un peu partout.
L'événement Truck en Stock fait son entrée chez Paillé Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Paillé Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en Stock, c'est ben des trucks maintenant. OK, OK, paillé, paillé.
Cela étant dit, allons-y maintenant parce que le temps presse et on a bien des informations à jaser. On va y aller d'écurie en écurie. D'abord, ceux qui ont gagné Red Bull. Une fin de semaine en deux temps. On peut. Excusez, là.
Vas-y, vas-y.
Excusez, là. D'ailleurs, je veux simplement revenir sur mes propos sur Esteban Ocon. Je suis pas désolé des propos que j'ai tenus parce que je les pensais à ce moment-là, puis je continue de penser que je pourrais débattre ça. Mm-hmm. Mais Checo Perez, là. Ah. T'es assis dans une Red Bull, mon chum, là, juste te dire ça comme ça. On critique Logan Sargeant. Les gars, quand j'ai dit qu'Esteban Ocon était le pilote qui méritait le moins d'avoir un volant en Formule 1 en ce moment, pour l'ensemble des choses, pas pour sa vitesse, pour l'ensemble de l'œuvre, vous m'avez dit « Hey, Logan Sargeant, c'est ça. » Mais Logan Sargeant, dans les deux dernières saisons, a été meilleur en qualification à 6 reprises que Checo Perez dans une Red Bull, les gars. Red Bull.
Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire.
Pas Racing Bulls, là. Red Bull.
Je me suis dit, un contrat de 2 ans, il va avoir moins de pression, il va être plus relax, plus smooth, il va pouvoir se concentrer sur sa course. Pas capable de sortir encore à Q2. Big, qu'est-ce que tu fais?
Tu ne peux pas réagir de cette façon-là. C'est impossible.
Il a 2 ans. Oh my God.
Il était horrible en course. Une chance que Ferrari, on en parlera tout de suite après, là, mais une chance que Ferrari ont fait la boulette en fin de semaine, là. Mm-hmm. Parce que sinon, imaginez le championnat des constructeurs, ça serait vraiment pas drôle. Là.
Ah oui.
On serait. Probablement que Ferrari aurait pu passer, même si Max gagnait. Là. Mettons qu'on aurait fait un doublé, un 2-3, quelque chose comme ça. On serait quelques points en avant de Max, en avant de Red Bull actuellement. C'est juste inacceptable. Il était pourri en qualification. Ça a été la même chose en course.
Oui.
Et là, il y a une pénalité de 3 places sur la prochaine grille de départ en Espagne.
Ça, c'est l'équipe qui a pris une décision.
C'est scandaleux, c'est de la tricherie. Puis j'espère que les gens vont réagir très fort. Puis je pense que même Will Buxton, ce matin, a fait une sortie publique en disant qu'il faut que la FIA réagisse parce qu'on a manipulé
le règlement.
Le règlement parce qu'on a craignait une sortie de la voiture de sécurité au moment de l'accident de Perez qui allait grandement changer les chances de Max Verstappen de remporter le Grand Prix. Alors on lui a dit, contre le règlement, de revenir au puits à ce moment-là alors qu'il y avait une voiture endommagée. Et ça, c'est très clair. Tu n'as pas le droit de se déplacer avec une voiture endommagée pour la sécurité des autres pilotes. Et on voyait son aileron arrière qui pendait derrière sa voiture. Ça aurait pu être hautement dangereux pour tous les autres pilotes du circuit. Et de ne donner qu'une pénalité de 3 places, c'est absolument incroyable. On devrait sévir très fort à l'endroit de Red Bull parce que, encore une fois, on manipule le règlement. Mais comme on disait un petit peu d'entrée de jeu, si tu triches pas, t'essayes pas assez fort.
If you're not trying, if you're not cheating, you ain't trying. Tu sais, voilà. Puis peu importe l'écurie, là, je demeure neutre. C'était la bonne décision à prendre. C'est la FIA a changé les règlements. Je pense pas qu'ils vont resévir de plus parce qu'il est comme trop tard. Par contre, changer le règlement maintenant. Et je suis d'accord que ça aurait pu être dangereux. Par contre, pour Red Bull, c'était la bonne décision. Dans le sens que away au pit, mon homme. On veut pas qu'il y ait un safety car. On veut que Max continue pour aller gagner.
En même temps, c'est une décision éthique aussi et morale à prendre. Est-ce que tu veux mettre la vie des autres pilotes en danger?
Ah, mais ça, attendez un instant. Là. Je veux dire, on revient. Vous ressortez une fibre en moi quand on parle d'éthique et morale et qu'on parle de la compétitivité de Red Bull.
Ben, c'est, il faut
ça
en
va
parler.
Pas tout à fait dans la même phrase. Exact. Je veux dire. On ressort quelque chose. Là, je vois Jean-Max avec son petit sourire très fier, mais je veux dire, on n'en est pas à nos premières fresques et nos premières décisions à éthique douteuse. Je vais encore me faire taguer là-dessus sur les médias sociaux et je vais me faire ramasser cette fois-ci par les fans de Red Bull. Mais lorsqu'on regarde les choses objectivement, je veux dire, c'est ça. Ce n'est pas notre première décision qu'on essaie de plier un règlement. Puis là, j'ai pas d'exemple précis en tête. Là, je pourrais vous revenir avec ça peut-être au prochain épisode, mais on s'entend que...
C'était douteux. Ça a fonctionné. ils savaient que ça allait fonctionner probablement. Là. Ils ont tellement une équipe gigantesque.
Oui, ils ont dit à la radio.
Trois places de pénalité pour Checo Pérez. On s'entend que de toute façon, c'est quoi? Il va passer de 12 à 15e, là, sa grille de départ?
À voir. On s'en va sur une stretch de circuit européen plus classique qui va favoriser la Red Bull. Quand Max plante tout le monde, Checo est capable d'arriver sur le podium ou 4-5e. À voir. Mais écoute, resserrons les règlements. Le sport, c'est le même aussi. T'sais. Il faut toujours qu'il y ait un incident pour que là, on change les règlements. T'sais, mettons, là, au hockey. Oups, bâton élevé au visage, ça a été instauré quand, ça? Si tu saignes, c'est 4 minutes. Fait que là, tu vois les joueurs qui se mettent les doigts dans la bouche pour aller chercher du sang. Ah, il n'y en a pas, c'est 2 minutes. T'sais, il faut toujours qu'il arrive un incident pour que les règlements se resserrent. Puis moi, je suis absolument pour que ça se resserre.
On punit les conséquences.
On punit les conséquences, voilà.
Là, on jette le pot à Red Bull, mais on va leur donner des fleurs. À quel point on a été capable de ramener un week-end sans nécessairement avoir tourné sur la piste vendredi. On savait qu'il y avait des grosses faiblesses. Max, qui a réussi à gagner la course en disant sur la radio, « Je ne peux pas toucher aucun vibreur à cause de la balance de la voiture. » Ça a été une course complètement incroyable de la part de Max Verstappen, ouais. À tout seigneur, tout honneur, et de son équipe aussi. De l'avoir ramené en première place de cette façon-là, de lui avoir donné la voiture, chapeau.
Chapeau, puis ça démontre encore une fois toute l'étendue de son talent. Mm. C'est une performance exceptionnelle qui est réalisée en... je dirais qu'en fin de semaine, c'est un peu plus en dépit des autres, parce qu'il y a je dirais, moi, à mon avis, c'est deux pilotes qui ont échappé la victoire, malheureusement, plutôt que Max Verstappen qui a remporté. Cependant, comme on dit souvent, pour remporter une course, il faut d'abord la terminer. Puis Max, c'est ça qu'il réussit à faire, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est un pilote d'exception.
Talent absolument incroyable. On voit, tu sais, il y a une ligne de piste sèche. That's it. On s'entend là-dessus. Fait que chapeau à tous ceux qui ont fini la course, qui ont eu des bons résultats, qui se sont permis d'aller faire des Lando Norris, des dépassements juste avant courbe 13-14. Le mur des champions n'est pas loin. C'est bien fait, c'est propre, le talent est incroyable.
Chapeau à Alex Albon qui a fait un double dépassement.
Quelle manœuvre d'Alex Albon.
On y reviendra, c'est sûr. Max, talent absolument exceptionnel, oui. Il a été chanceux aussi. Le safety car qui rentre, Lando ne peut pas entrer au puits. Lui, il rentre tout de suite.
Ben, allons tout de suite.
C'est le retour de la médaille, hein, parce qu'à Miami, là, même Lando a été honnête aussi. Il dit, ah, le safety car, moi je vois un tour.
Tu me devances dans McLaren.
Ouais, c'est ça. Mais...
Bon, allons vers McLaren tout de suite. Lando, qui était le pilote le plus rapide.
Ouais.
Et bon, des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. Et en fin de semaine, ça a été le clou, mais... Tu dis, on a joué de chance parce que les autres ont fait des erreurs. Pas joué de chance. On a juste pas fait d'erreur ou presque pas d'erreur. Et eux en ont fait de leur côté. McLaren, moi, quand j'ai vu qu'on laissait Lando à l'extérieur, quand tout le monde est rentré, ouais. Je me suis dit, bon, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'était pas trop grave. On a réussi à revenir en troisième position. Mais quand il est resté à l'extérieur pour le deuxième... Mm-hmm. Le deuxième safety car à ce moment-là et lorsque tous les autres pilotes sont rentrés.
Là, tu parles de la deuxième fois qu'il
a fait le safety car, le deuxième arrêt au puits. Là,
ouais.
Et tout le monde est rentré, il est resté à l'extérieur et on voyait qu'il gagnait du temps. Ouais. Je me suis dit, bon, parfait, mm-hmm. Un tour, c'est assez.
Ouais.
Mais non, on l'a laissé un autre tour encore.
Ouais.
Alors, je pense que McLaren, encore une fois, une écurie qui est en train d'apprendre à gagner et à être positionné au top. Et ça fait partie de la courbe d'apprentissage en fin de semaine qui nous a coûté une victoire, malheureusement.
Mais tu sais, dans les faits, si la voiture de sécurité était sortie une seconde avant, il aurait réussi à rentrer au bon moment. Quand on regarde la reprise à bord de la voiture de Lando, tu vois qu'on voit le panneau qui s'affiche avec les fameuses lettres SC qui indiquent que la safety car est en jeu et aussi que ça s'affiche sur son... sur son moniteur de... Mais à ce moment-là, il est en train de regarder à l'intérieur du virage et à préparer son point de corde. Donc, c'est vraiment une question de une seconde avant.
Ouais. Mais celle-là était correcte. Je veux dire, à ce moment-là, c'était correct.
Mais il y avait 15 secondes d'avance.
S'il rentre au puits, il gagne probablement.
Il
menait par 13-15 secondes.
Ça, c'était le manque de chance.
Ouais.
Malheureusement, on ne pouvait pas contrôler ça. Il n'y avait rien à faire. Et puis, c'est l'autre, mais le l'overcut, deuxième arrêt au plus.
L'overcut, moi, j'ai trouvé ça judicieux parce que
mais il a duré trop longtemps.
Au moment,
tu penses que s'il rentre avant?
Non, moi, je pense qu'il a fait la bonne chose parce qu'au moment où il est sorti des puits, il était effectivement devant Max Verstappen. Et puis, c'est juste parce que la chaussée était trop mouillée. Il n'y a pas eu d'assez d'adhérence.
Oui, mais il n'y aurait pas eu la température des pneus et la maturité de pneus assez prononcée pour pouvoir rester devant Max. Max avait déjà les pneus qui étaient presque corrects à la bonne température. Ouais. Et ça aurait été... Les DRS étaient ouverts à ce moment-là. Ça aurait pris un demi-tour, puis Max passe en avant, c'était sûr et certain. Puis suite à ça, ben, bonne chance pour essayer de revenir derrière. Là, il aurait peut-être, on aurait eu peut-être une meilleure lutte à ce moment-là, à la fin de la course. Mais je pense que simplement, on voyait après son premier tour qu'il avait gagné un autre demi-seconde devant Max. Mm-hmm. Et après ça, il a perdu 0.7, je crois, dans le tour suivant. Là. Ça dépend où est-ce qu'on regarde les temps. Là, mais moi, c'est ce que je me rappelle exactement. On était rendu comme à 20.8. Et je veux dire, on aurait dû calculer ça et dire non, rentre là tout de suite. Au pic, on est à 21.5. Il aurait pu l'avoir.
Et quel moment... Moi, j'étais juste là. Au virage 1 et 2, et là, tu vois, je vois les voitures qui sortent des puits. Et là, évidemment, bon, je suis un fan de Max, on le sait tous. Et là, je vois... Ce que je vois, c'est Max qui termine la longue ligne droite, amorce le virage 1, juste à droite, mon œil, prend Lando. Et là, tu vois que Lando... Si la piste est sèche, Lando passe devant. Oui. Tu le vois, c'est évident. Et là, la sortie des puits est très mouillée encore. Et à ce moment-là, les seuls virages ou secteurs de la course qui sont mouillés, c'est virage 1-2. Parce que rendu de l'autre bord à l'épingle, les virages 7, 8, 9, 10, c'est très, très sec. Là, t'sais. Et là, tu vois Lando Norris qui spin. Et là...
Qui se rappelle Sochi.
Ouais. Et là, Max qui passe devant, la foule était en délire, ça hurlait. Quel moment de...
Est-ce que les gens étaient plutôt déçus ou plutôt contents?
Où est-ce que j'étais, moi, là, c'était Lewis, quand il a passé, Fernando, c'était comme... What? Quand Russell a dépassé, il hurlait, j'avais beaucoup de casquettes mauves, vert fluo, noires de Mercedes. Avec mon ami, on était... Pas les seuls, évidemment, mais qui hurlaient quand Max...
Moi, c'était vraiment Max dans ma tribune. Ouais. Les gens... Il y avait beaucoup de fans de Lewis, de Lando également. Je pense que les gens aiment l'action, aiment les dépassements et tout ça, mais je pense que ça dépendait des tribunes aussi. Mais...
Et ça cheerait pour Norris aussi beaucoup.
Ouais, ça aurait... Ben, Charles Leclerc a été pas mal le favori à ce moment-là aussi. À chaque fois qu'il passait, les gens... Ouais. Et sur le site... Lorsqu'on avait la boutique de Ferrari qui était dans le fan zone, donc où est-ce qu'on pouvait trouver tout ce qu'on avait de Ferrari, il y avait une file d'attente en serpent. Et pour toutes les autres équipes, aucune attente. Tu peux rentrer quand tu veux. Alors, et ce que c'est, j'ai ouvert mes oreilles de membres des médias là, pour voir ce qui se disait et personne ne voulait acheter du Saints. De toute façon, il s'en va chez Williams. Ça ne mentionnait que ça. Bref, on en reparlera dans quelques instants. Oscar Piastri, vos impressions? Tu vois qu'il a manqué peut-être un peu d'agressivité, il avait peut-être pas le rythme ou il était peut-être moins à l'aise sur ces conditions-là, sais pas trop. Ouais.
Je pense que les consignes d'équipe ont joué à défaveur, puis il était plutôt aussi comme l'agneau sacrifié, étant donné que c'était la seule écurie qui avait, au début du Grand Prix, c'est la seule écurie qui avait une cohésion ensemble, qui se suivait ensemble, jusqu'à temps que Kevin Magnussen, sorti nulle part, vienne dépasser Oscar Piastri, bref. Je pense que Oscar, c'est pas faute de performance. Il y a eu un week-end extraordinaire, surtout sous la pluie, sur un circuit qu'il connaissait pas beaucoup. Dans une nouvelle chaussée, moi, je suis pas prêt nécessairement à le critiquer tout à fait. Je trouve qu'il a joué les seconds violons à perfection.
Ouais, je critique pas non plus. Encore une fois, quand tu regardes le Grand Prix à la télévision, on voit les images qu'on voit. T'sais. Tandis que si tu es toujours au même virage, tu vois de tour en tour le gap.
Ouais.
La différence des temps, et c'est que ça, hein, la F1, c'est qu'il a pris 5 dixièmes de ce tour-là. Puis là, tu voyais tranquillement que Max suivait Russell au début d'InfoFun. Lui, il se disait, je ne vais pas essayer de le dépasser ou niaiser. Anyway, le DRS, il n'est pas disponible. Je le garde proche de moi, puis après ça, je le clenche. Mais tu voyais que Norris et Piastri s'éloignaient de tour en tour. Donc, meilleur rendement sur les intermédiaires pour Red Bull. Puis là...
Non, sur les intermédiaires, c'était McLaren.
Attends, ouais. On était où? Ben, c'est
là que Norris est allé chercher. Aussitôt que la piste a commencé à s'assécher là, sur ça, les intermédiaires, quand... les McLaren.
C'est parce que je pense que.
Mais quand
moi,
c'était plus mouillé, au début, il y a vraiment un gap qui s'est créé entre Norris puis Max et Norris et Piastri.
Parce que j'ai l'impression que Max, comme tu dis, il poussait vraiment fort sur Russell. Les deux ont usé un petit peu plus leurs pneus, puis McLaren, fin renard, ils ont dit on va les laisser se batailler, nous, on va conserver nos pneus, étant donné qu'on savait qu'il allait pleuvoir à nouveau dans le Grand Prix. Donc, il fallait être très rusé pour garder son calme, attendre la prochaine pluie et puis avoir des pneus qui allaient performer quand la nouvelle pluie allait arriver.
Très bien vu. Mais Piastri, j'ai l'impression...
Rapidement.
Je chiale pas. Un petit peu plus de misère, je pense, avec la pluie. C'était mouillé. Je
continue pense d'apprendre. Continue d'apprendre.
Exactement, c'est correct aussi.
Là, parlant de pneus, Ferrari. Ah! Si vous nous regardez, vous voyez mon désespoir.
Ouais.
Qui a pris la décision de faire rentrer Charles Leclerc quand on savait qu'il allait avoir une autre pluie et qu'on entendait les autres pilotes dire « Non, c'est encore mouillé, on n'est pas prêt. » Mais Ferrari, eux, rentre et donne la gomme dure à Charles Leclerc. T'sais, les gens se levaient dans l'épingle. Les quatre tribunes se levaient pour applaudir Charles Leclerc quand on voyait qu'il n'était pas capable de virer dans l'épingle. Dépassait la ligne de course complètement, sortait, faisait même crisser les pneus, on entendait ça. Ouais. C'était.
Mais Greg, permets-moi de revenir pour critiquer Ferrari sur leur choix de pneus en Q2 le samedi. Ça a complètement bousillé leur week-end en utilisant une gomme qui avait déjà couru pour un tour déjà. Quand tu utilises un pneu qui a déjà un cycle de qualification, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas les protéger en qualification, donc ils sont extrêmement usés. Tu vas sacrifier beaucoup de performances. Je ne peux pas croire qu'on avait l'ego de dire « Ah, c'est sûr qu'on est capable de passer en Q2 alors qu'on n'avait presque pas d'informations sur le temps sec lors de la fin de semaine. » Et puis donc, ça leur a coûté extrêmement cher pour toute la course.
C'est ça qu'on voit quand tout va bien. Là. Quand tout va bien, « Ah, Ferrari sont très bons. T'sais, là, il fait soleil, on n'a pas trop... OK, on a réglé beaucoup de problèmes. » Mais quand il y a un week-end plus problématique avec de plus gros défis environnementaux et ce qu'on a vu là, de stratégie... Et Ferrari ne sont pas encore au point d'arriver et de dire on est l'écurie numéro un et qui est prête à être championne des constructeurs.
On venait de gagner Monaco, Sainz 3e, superbe, on est fort.
Monaco, tu n'avais pas de stratégie, là. Je veux dire, non. Tout le monde a eu le drapeau rouge, changé les pneus, puis après ça, c'est pas d'arrêt, c'est sûr.
Toutes les écuries voyaient Ferrari comme les favoris en fin de semaine.
Helmut Marko l'a dit, Lando l'a dit. Même Charles Leclerc est parti arrêt. Là. Il dit quand c'est pas Helmut, c'est Lando, c'est Zach Brown.
Ah, ouais.
Mais non, on a encore des choses à travailler. Et là, on l'a compris.
Puis t'as raison. Une décision scrape tout le week-end. Parce que si tu passes en Q3, tu risques de... T'sais, admettons que ça va moins bien. T'es quand même 6-7e ou 7-8e sur la grille de départ. Et là, tu peux au moins... te faufiler, puis profiter du safety car, puis peut-être, tu sais... Mais là, écoute, quand tu pars 11-12e, puis là, Charles a eu des ennuis de moteur aussi. Là. À leur défense, j'ai écouté les propos d'après-course. Il disait, écoutez, j'avais déjà des problèmes de moteur. On savait qu'on finirait pas d'un point. On s'est dit, regarde, tant qu'à être là, on va essayer quelque chose. On va mettre les hard.
Mais c'était,
ça n'a rien donné.
C'était pas bête à ce moment-là. La grave erreur, c'est d'être re-rentré au puits ensuite pour mettre d'autres intermédiaires.
Non, mais on savait que la pluie revenait. Donc oui, c'était bête.
Ouais.
Tout le monde le savait. Il y a Carl Girard, un auditeur d'ailleurs que je salue, qui lui me textait la température. Et nous autres, on était assis dans l'épingle. On disait, hey, fait chaud, là, tout le monde se déshabille. Tout le monde garde les fameux T-shirts ou autres. Et non, plus dans 15 minutes. Là, on se tournait. Oh boy, oui, le nuage vient d'apparaître. Ça revenait. Les écuries le savaient, ça. À un moment donné, quand t'es tout seul à essayer quelque chose, peut-être pas nécessairement bon non plus. Ouais. T'sais. Donc, pas bête de vouloir essayer quelque chose, mais bête que ce soit des pneus puis que tu dois... Pauvre Charles. C'était vraiment pas drôle. Ouais.
Et là, de l'aveu même de Charles, ses problèmes de moteur vont être très graves pour le reste du championnat. Donc, la lutte au deuxième rang s'est resserrée énormément...
Peux-tu aller plus en profondeur là-dessus?
C'est que là, étant donné qu'ils vont sûrement avoir une pénalité de moteur éventuellement dans le calendrier.
Parce qu'ils vont devoir changer de power
unit. Donc, ça va les mettre sur le...
Mais Max va l'avoir aussi parce que le moteur qu'il avait utilisé en Q2, va devoir le changer également. Donc, il va l'avoir également. Fait que peut-être qu'on va réussir à balancer ça.
Juste du bois.
Du côté de Carlos Sainz, parlons-en rapidement. t'enfiles, les gars, on jase pas mal. Carlos Sainz qui va annoncer, devrait annoncer. Parce que là, il y a des gens qui disent son contrat est déjà signé. Lui dit non. Je pense qu'il reste vraiment deux options viables dans le cas de Carlos Sainz.
Mm-hmm.
Et ça se peut qu'on ait une surprise, être soit Williams ou encore le projet Audi qui est Kickstarter.
Mais Bertrand Godin, samedi, nous a quand même lancé un pas pire pavé dans la mort avec la vente de certaines actions chez Aston Martin. Je me demande si c'est pas...
C'est pas Bertrand qui l'a lancé, c'est moi qui ai mis le pavé, puis c'est Bertrand qui a continué d'arroser.
Bon, excuse-moi de t'avoir volé le mérite. Ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être que c'est la seule chose qui empêche Carlos de finalement l'annoncer, ce jeu-là, parce que si Lance Stroll ne revient pas, est-ce que le volant le plus convoité ne devient pas celui chez Aston Martin?
Les deux Espagnols!
Remettons en contexte. Wow. Remettons en contexte un instant. Lawrence Stroll, il y aurait beaucoup de discussions que Lawrence Stroll vendrait certaines de ses parts, certaines actions de Aston Martin, ce qui ferait de lui un des propriétaires, mais non plus le propriétaire majoritaire de l'équipe. Ce qui ferait qu'à ce moment-là, est-ce que Lance resterait en poste dans les prochaines saisons, à partir de la fin de la saison. On a vu un Lance avec une attitude en deux temps, en fin de semaine, et lui, beaucoup de parler à quel point il était commis au projet, qu'il voulait rester et tout ça. Et plus la fin de semaine avançait, plus il était de bonne humeur. On l'a vu sourire, parler à la foule dans la parade des pilotes. Par la suite, on a vu également... à la fin de la course, il est resté. Il y a trois pilotes qui sont restés. Daniel Ricciardo, Lando Norris, qui sont peut-être les deux plus funny guys de la gang. Et Lance Stroll, qui est peut-être un des malheureusement moins funny guys,
oui,
qui lui est resté. Puis il a eu énormément de plaisir à saluer la foule, lancer des casquettes, signer des autographes, tout ça. Donc, est-ce que c'est une opération de relations publiques ou...
Puis on l'a vu aussi dans la voiture au dernier tour, là, le tour de refroidissement, qui a vraiment pris le temps de saluer son gradin. En allant très lentement.
Oui, oh, j'étais là.
Est-ce que c'était son dernier c'est Lance, Montréal? Là,
ma blonde était sur le banc, puis elle a envoyé des bye-bye à Lance comme ça. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié ça. Ouais. On le critique, Lance Stroll, mais d'avoir un pilote montréalais en Formule 1.
C'est que, tu sais, c'est vraiment l'agneau sacrifié, on dirait. On le critique beaucoup parce qu'il y, avait seulement 11 points avant le Grand Prix du Canada. Mais c'est que quand tu es un second pilote dans une écurie, tu vas souvent être l'agneau sacrifié pour essayer... les nouvelles performances de gomme où tu vas essayer de donner des informations. Exactement. Donc, je pense que malheureusement, souvent, on lui tombe souvent sur le dos. Il y a eu une performance catastrophique à Monaco l'an dernier, mais on peut-tu passer à d'autres choses?
Je pense que c'est dans son incident.
Son entraîneur aussi.
Son entraîneur, mais son incident qui a rentré dans le derrière de Daniel Ricciardo qui n'a jamais pris acte de ça. Je pense que c'est ce type de truc-là qu'on n'aime pas de Lance Stroll, mais à part ça.
Mais je pense qu'il l'a dit lui-même, hein, le projet Lawrence et Lance ensemble, ça a toujours été autour de Lance Stroll. Je pense qu'on a essayé jusqu'au bout de lui donner la chance de performer. Là, on arrive comme à la croisée des chemins. Lawrence qui avait vendu une partie où il y a un partnership avec Arctos déjà. Je pense qu'il va en vendre plus.
Ce sont
peut-être
des rumeurs qui courent on lit un peu partout là, ce qui sort.
Donc, est-ce qu'on arrive comme, on a essayé, ça ne marchera pas. Lance n'a pas de contrat pour l'an prochain encore.
Mais c'est jamais annoncé.
Oui, mais
c'est... Non, c'est ça. Lance est toujours un des derniers à annoncer.
Il y aurait peut-être plus de rumeurs. Bref, en tout cas, est-ce qu'il s'en va? Est-ce que...
Un dossier à suivre, en tout cas, dans les prochaines semaines. Mais d'avoir les deux Espagnols ensemble. Imaginez Carlos avec son idole, Fernando Alonso. Ce serait quand même quelque chose. On a couvert un peu Aston Martin aussi en même temps, fin de semaine. Des performances intéressantes, somme toute. Le vendredi et le samedi, c'était bien de les voir à l'avant comme ça, de voir Lance bien faire chez lui. Et c'est spécial quand même pour lui, le Grand Prix du Canada. Mm-hmm. Cinquième fois qu'il va chercher des points. Termine septième. Donc, je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Fernando Alonso qui a dit qu'il avait connu une course formidable. Donc très très bien fait de la part de Fernando. Il y a des gens qui disent, puis là je me suis promené sur les médias sociaux, il dit ça pour flatter le boss, puis s'il y a quelqu'un dans la vie qui pense pas à flatter son boss là, c'est Fernando Alonso. Il a pas besoin, puis deux, il a pas envie de faire ça non plus.
Ouais.
Donc s'il a dit ça de Lance, c'est vraiment qui a beaucoup aimé sa course et sa performance. Sinon, il a...
Puis Fernando, d'ailleurs, il faut souligner sa performance extraordinaire, qui a réussi à garder Lewis derrière lui pendant un bon moment. La Mercedes qui était hautement en forme en fin de semaine.
Le ministère de la Défense.
Oui, était de retour et bien en forme. Puis chapeau à Fernando, vraiment.
Il a fait ce qu'il peut parce qu'à chaque tour, tu voyais Lewis direct derrière lui. Il a résisté comme il a pu. Lewis est finalement passé. Et là, j'en parlais, j'étais comme, quelle jouissance de voir Fernando et Lewis se coltailler, se suivre, essayer de se dépasser. À chaque fois que ces deux-là sont dans le top 5, 6, 7, c'est absolument jouissif.
Puis Aston qui a réussi à obtenir le maximum de points qu'il aurait pu. Et même plus parce que Sergio et Carlos auraient dû être devant. Donc, de terminer 6e et 7e, c'est une performance extraordinaire pour eux.
Il y a des gens qui disent mais si Ferrari avait été là et que Sergio avait fait son travail, c'est-à-dire, savez-vous quoi, ils l'ont pas fait.
C'est le même tout le temps. On prédit ça à chaque semaine, à chaque course. Si, garde, c'est ça la F1. Tu capitalises sur les erreurs de tes adversaires. C'est en piste.
Les deux terminent dans les points. Très bien fait. Vous parliez de Lewis. Je veux qu'on garde 5 minutes pour parler de ça.
Je pense à toi, Greg.
L'événement Troc en Stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Paillé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Paillé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en Stock, c'est bien des trocs maintenant. OK, Paillé.
George Russell, très bon week-end. Je pense qu'on peut dire George Russell, très bon week-end, on se serre la main et on n'a rien d'autre à dire sur sa performance.
Le petit Vera.
Il l'a échappé. Il a échappé la victoire, moi, je pense.
Il a fait trois erreurs.
Est-ce qu'il avait la voiture pour faire
100%.
Non.
Pardon?
De son propre aveu, oui.
Ouais, de son propre aveu.
Non, mais
il passe septième à Monaco et il dit on aurait pu se battre pour la victoire. De son propre aveu. George Russell, de son propre aveu, il gagnerait chaque course.
De son aveu à lui, de celui de Toto et de celui de Lewis, il y avait la voiture pour remporter le Grand Prix en fin de semaine.
Pas d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord, les gars. C'est eux qui le disent.
Ouais, je comprends, mais Max ou Lando auraient fini par le brûler.
Est-ce que je te sorte la liste des trucs que Toto dit aussi depuis le début de la saison?
Mais d'habitude, ils sont très...
Je te rappelle qu'il avait dit, quand on va arriver en Australie, on va se battre pour une victoire.
Non, mais d'habitude, ils sont très conservateurs, Mercedes, et même Lewis. Puis là,
il avait une bonne voiture pour gagner devant Max, Lando et Piastri.
Mais on a vu qu'il y avait des performances en fin de semaine pour remporter. Puis même dans la dernière stint de la course, dans le dernier... il devait rattraper Lando, puis c'est seulement qu'à cause que Lewis lui poussait dans le derrière que George n'a pas réussi à le faire. Puis quand il a échappé dans le virage 6, je me souviens, 8-9, quand il l'a échappé à ce moment-là, c'est là qu'il a perdu la course. Sinon, il aurait 100% pu le remporter, je suis persuadé.
Écoute, pas d'accord, mais c'est intéressant que tu vois ça comme ça. Peut-être que je vais réécouter le Grand Prix. De toute façon, je veux le réécouter avec...
Moi, je pense qu'il a bien fait avec la voiture qu'il y avait.
Mercedes sont officiellement de retour.
Je suis pas sûr, parce qu'on en parlait samedi. Oui, il y a eu des belles améliorations. Clairement, l'aileron avant a fait une bonne différence pour un circuit avec 5 chicanes puis une épingle.
Moi, je vous le dis,
quand on va retourner dans les grosses courses européennes... J'ai hâte de voir. Je leur souhaite. Puis en plus, il faisait plus frais ce week-end. On l'a dit, le moteur Williams...
C'est Pag qui l'a bien fait de le noter.
Le moteur Mercedes, effectivement, s'est bien comporté. Quand c'est plus frais, maintenant, on retourne en Espagne, en Hongrie et tout ça. Là, on va aller voir s'ils vont avoir des bonnes performances. Mais s'ils sont vraiment de retour, et tu pourras enchaîner ensuite.
Oui.
Si tu ramènes Lewis et George dans le mix, tu as vraiment 5-6 écuries qui peuvent se battre pour des podiums, ça serait absolument excitant pour la suite.
On a tellement été moribond dans notre attitude depuis le début de les nouvelles réglementations chez Mercedes, depuis début de 2022, que pour affirmer qu'on est enfin capable d'extraire des performances de cette Mercedes-là, de tous les départements, le leadership et les deux pilotes, moi, je suis persuadé qu'ils sont de retour. Et puis, je suis sûr qu'ils vont nous faire mentir leurs détracteurs au prochain Grand Prix en Espagne. Ils ne vont pas nécessairement se battre pour la victoire parce que Red Bull vont être trop dominants, mais ils vont être dans le mix avec McLaren, Ferrari. Je suis persuadé à 100%.
Je pense qu'il y a deux vérités là-dedans. Ils ont fait des bonnes améliorations. Ils vont être bons pour la suite, mais je pense pas qu'ils auraient gagné, honnêtement, en fin de semaine.
pense pas que Mercedes font ça depuis 3 ans, nous donner espoir après une course ou deux que ça va bien, qu'ils sont de retour, qu'on est parti, puis finalement, ça, c'est pas le cas du tout. Moi, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire sur cette voiture-là. George Russell a bien performé en fin de semaine. Lewis a connu une bonne course aussi, en partant de la 7e place jusqu'à la 4e. Puis ça, une petite controverse que Pag et moi, on s'est ostinés par message texte là-dessus. Je disais, ça n'a pas d'allure le traitement de Mercedes envers Lewis. Il dit, ben, c'est de sa faute. C'est lui-même qui dit que c'est de sa faute. Non, non. C'est le leadership de Lewis qui fait qu'il prend ça sur lui-même pour ne pas blâmer personne. Mais le traitement que Mercedes donne à Lewis Hamilton actuellement, c'est vraiment, mais vraiment pas intéressant. Avez-vous déjà vu Lewis, vous, dans une parade des pilotes, assis tout seul dans le coin? Quand les... Assis
tout seul dans avant la course?
Vous n'avez pas vu ça?
Non.
Assis tout seul dans le coin, avec son capuchon sur sa tête. Il y a même Charles Leclerc qui est allé lui taper sur l'épaule puis s'asseoir à côté de lui à un certain moment donné. On l'a passé en entrevue. Jean-Marc, j'étais avec toi à ce moment-là. Montréal, c'est un de mes endroits favoris. Et on sentait que s'il n'avait pas été à Montréal, là, je ne sais pas ce qui se passe présentement, ce qu'il a dit après les qualifications de Monaco. Je ne pense pas que je vais réussir à battre George d'ici la fin de la saison en qualification. Et là, on lui a demandé pourquoi. Il dit, ben, vous allez voir. Et encore une fois, aujourd'hui, Lewis était, en fin de semaine, Lewis était le plus rapide. Il est arrivé en qualification. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi mes pneus n'étaient pas à la température qu'ils auraient dû être. Il était à 2 à 3 degrés en dessous de la température et George avait les pneus parfaits. Donc, il y a clairement un shift qui s'est fait dans les dernières semaines dans l'attitude que Mercedes a envers ses deux pilotes. On favorise complètement George Russell. Puis c'est normal, qu'il reste avec l'écurie.
Oui, mais on gagne quoi dans une lutte?
Non, mais c'est ça que je disais, qu'est-ce qui s'est passé entre
Lewis va toujours faire le travail comme pilote. Il va le faire.
Est-ce que c'est les ingénieurs de George qui ont fait des ajustements à eux? Ils ont le droit de les faire?
Oui, mais en ce moment, Mercedes...
Mais l'équipe en tant que telle, je veux dire, avez-vous vu la controverse avec les pneus? Lorsqu'il est rentré au puits, il a dit, est-ce que je peux avoir des médiums? On lui a répondu non, il n'y a pas de médium disponible. Il dit, les softs, non, on a trop peur, gardons la place, allons-y avec les gommes dures, les hard. Et Lewis a dit, les pneus vont pas bien, ça marche pas. Tandis qu'on a donné, tu sais, Mercedes pouvait donner les médiums à George. Toute cette controverse-là qui s'est faite.
Mais il a mis les hard, George, et aussi.
Il a mis des médiums.
Il a mis une fois des hard.
Oui, mais c'était pas à ce moment-là.
Okay. À la fin de la course, lorsque Lewis a repris la 3e place et tout ça, bon,
pour ça qu'il a brûlé à la fin.
Il y a eu, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, il est arrivé et George était beaucoup plus rapide que Lewis. Et Lewis a dit, pourquoi j'aurais pas pu prendre les softs? Bah, c'est il y a eu cette conversation-là entre Bono et Lewis qui était très, très... comment je te dirais ça? Très, très émotif, très, très controversé. Puis après, t'as juste Toto qui a pris la radio et qui a dit, Lewis, le point positif, on est allé chercher des points pour l'équipe. Et Lewis a rien répondu. Si vous regardez sur la caméra, répond rien, stationne sa voiture et hoche la tête en faisant non comme ça. Ouais, pas content. Oui, mais
écoute, là, quand même.
Oui, c'est ça, mais Greg répond à ça. Mercedes sont 4e dans le championnat des constructeurs. Le seul championnat qui rapporte de l'argent dans le championnat. Le pilote, on s'en fout, ça rapporte rien, sauf pour la gloire. Le championnat des constructeurs, ça rapporte des sous. Dans quel monde ça avantage Mercedes
désavantager
le pilote? Je pose la même question, je suis d'accord avec toi. Ce que je vous donne, c'est des faits qui sont passés en fin de semaine. Je veux dire, si tu sais que Lewis peut être plus rapide, et qu'il t'a dit qu'il peut être plus rapide sur des softs, donne-lui. Je veux dire, pourquoi tu n'y as pas donné? Parce que George est en avant et qu'on veut... prioriser George. Je veux dire, il va falloir... Et je me suis promené parce que j'ai cette opinion-là. Tu m'as fait réfléchir, Pag, en disant, ben non, c'est Lewis. Et il y a énormément d'observateurs aussi. Je dis pas des experts, des journalistes. Il y a des observateurs qui regardent ça et qui disent, il y a quelque chose qui se passe présentement chez Mercedes.
Mais il favorise George parce qu'il va être là l'an prochain, puis il préfère que George ait un meilleur résultat que Lewis, que ce soit n'importe qui. Il garde Ocon, là. Ils ont dit, là, c'est Pierre qui passe, c'est Gasly, let's go. On va aller chercher Danny Rick, même s'il avait pas vraiment de chance. C'est comme ça. Même Max, s'il s'en va, là, en 2026, bien, ils vont le mettre un peu à l'écart. On ne va pas tout partager avec lui des développements de la voiture. Puis on va peut-être favoriser l'autre pilote si l'autre pilote
là,
peut.
Là où je ne vois pas. Pourtant, Ferrari ne fait pas ça présentement avec
Carlos.
Avec Carlos et Charles.
Mais là où je ne crois pas,
c'est. Constructeurs,
là où je crois pas qu'il y ait un sabotage ou un auto-sabotage. Tu sais, pendant le Grand Prix, OK, tu dois respecter la position en piste et tu avantages nécessairement George. Et George est devant Lewis au championnat des pilotes. Il n'y avait pas de marge en qualification. Il y a eu une égalité parfaite. Tu ne peux pas miser sur un pilote dont tu sais qu'il a été le plus rapide toute la fin de semaine. Tu ne peux pas le pénaliser. Ça fait aucun sens stratégiquement de faire exprès.
Ils veulent que Lewis parte deux ou troisième. Là. T'sais, ils n'ont pas saboté rien, là, je veux dire.
Il aurait sûrement parti en pole et remporté le Grand Prix.
Lewis dit qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça, j'arrive en qualif, mes pneus ils glissent puis tout. Hey là, man, arrête là. Je veux dire. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Lui-même, on le sait, il a fait comme deux, trois petites erreurs. Il a trop poussé. Puis, il a pas eu une meilleure qualif que Russell. Là. Il y a personne qui sabote Lewis. C'est juste ça que je dis, moi. Ils n'ont pas intérêt. Tu as raison. Ils veulent juste être les meilleurs possibles à la fin de l'année.
Je ne suis pas certain que ça.
Saboter, non.
Je ne dis pas qu'on le sabote.
Mettre de l'avant George,
je dis pas qu'on le sabote, mais il y a quelque chose qui se trame.
Ils ont sûrement pas dit...
Tu ne peux pas avoir un champion du monde cette fois... qui a gagné 103 victoires, qui s'en va dans les caméras puis qui dit « Je ne battrai pas mon coéquipier d'ici la fin de la saison en qualification. » On lui demande pourquoi, il dit « Vous allez voir. »
Ben, là, il peut pas dire...
Faut lire entre les lignes en quelque part, là.
Il peut pas dire « Ils veulent favoriser George parce qu'il va être là l'an prochain. Moi, je quitte pour Ferrari. » Il peut pas dire ça. Fait qu'il va dire « Regarde, vous allez voir, là. » C'est ça. Puis ensuite...
C'est
dans la parade des pilotes, là, tu penses vraiment qu'ils ont dit « Là, Lewis, là, tu nous fais chier. » Va t'asseoir dans le coin puis mets ton petit capuchon.
Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est là, tu prends les choses en dehors de contexte
non,
et tu ajoutes ça. Je veux dire,
c'est lui qui est fâché. Dire... C'est pas l'équipe qui dit « va-t'en ».
Non, oui, mais c'est sûr qu'il est fâché.
Eh oui, mais bro, tu t'en vas chez Ferrari.
Combien de championnats des constructeurs, Lewis, l'a regagné?
Je le sais.
Combien de championnats des pilotes l'a regagné?
C'est comme Adrian
Newey. C'est
comme Newey. Ils l'ont tassé. Ils veulent pas qu'il y ait le knowledge pour 2025, 2026.
Quelqu'un avec qui tu as eu une si longue association... De cette façon-là.
Mais tu viens de le dire toi-même, tu fais pas ça.
Tu fais pas quoi?
Tu le traites pas comme ça. Je pense pas qu'il y a un traitement préférentiel, si ce n'est que...
Mais non, mais vous venez de dire qu'il y a un traitement préférentiel, tu me dis je pense pas qu'il y a un traitement préférentiel.
Ouais, mais non, c'est sûr qu'il y en a. Ils vont mettre de l'avant-George sans piler sur Lewis.
Exact. Mais ils sont obligés, dans le sens qu'ils vont amener les nouvelles modifications en priorité à George.
Ouais, c'est normal.
C'est normal, je pense. Mais je pense pas qu'il s'abat.
Il y a clairement quelque chose
mais j'ai hâte de voir.
Chez Mercedes.
C'est sûr que ça va se tramer.
Je suis certain que d'ici quelques semaines, vous allez dire « Ouais, Greg, finalement... »
Écoute, je vais être le premier à dire « T'as raison. » J'ai hâte de voir sur Twitter.
OK, les gars, là, il nous reste 10 minutes, puis il nous reste pas mal. Alors, allons-y tout de suite avec notre segment « Cargaroos », parce qu'il y en a des pilotes de qui on va parler qui, eux autres, vont chercher des voitures, mais probablement qu'ils peuvent trouver la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et de prix d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargaroos.ca. Là, il va falloir aller vraiment vite, messieurs, avant qu'on passe à cette entrevue que j'ai réalisée avec Frédéric Brousseau. Allons-y avec... Attends un instant.
Oh, il met la calotte. Magnifique.
Quelle belle cascade de Williams. Quelle catastrophe, par contre, en fin de semaine. Hein?
Mais c'est pas de sa faute en plus, pauvre Albon, qui a été victime de la sortie de piste de Carlos parce qu'on roulait au 10e rang à ce moment-là.
C'est vraiment plate. Il aurait pu aller chercher un point ou des points. Ouais. Et Logan Sargeant qui se montrait rapide, mais finalement qui.
Ben encore Logan. Qu'est-ce que je te dis?
À un moment donné, là, Logan Latifi.
Dans les estrades, là, quand on a vu que c'était Logan qui s'était crashé, tout le monde est parti à rire. T'sais, en voulant dire. On rit pas de l'humain, tu sais, il est là, il y a une raison pourquoi il est là, et on veut pas piler sur personne, tu sais, on est respectueux, mais là, il est temps qu'il quitte l'aventure, et c'est ça qui va arriver. C'est correct, c'est fair, Valls lui a donné une dernière chance, et là, Sainz puis Albon qui s'accrochent.
Non, mais Valls,
les futurs coéquipiers, peut-être.
Il donne pas de chance, là, il pile les millions que Logan amène avant de pouvoir investir dans un pilote de qualité.
Oh, oui, entre autres, mais au début de l'année, il se dit, garde, on va l'essayer, là, on va voir ce qui se passe.
On laissera Frédéric Brousseau, qui ne pouvait pas commenter d'ailleurs la venue ou sortie de certains pilotes, bien sûr, parce que c'est pas dans le département, mais on le laissera en parler un petit peu plus tard d'ailleurs dans l'émission, dans cet entretien, à quel point le projet Williams avance de la bonne façon et tout ça. V-Carb, Daniel Ricciardo, yeah. quelle belle reprise, quelle belle... comment je peux dire ça?
Dans les dents, Jacques.
Dans les dents de Jacques Villeneuve. Ça, on en a parlé samedi. je veux dire, ouais. S'il pouvait sécuriser son volant, je pense qu'on... Tu sais, on le fait pas, comme Frédéric Ferrel nous l'a dit, sur une seule fin de semaine. Mais Daniel Ricciardo a montré qu'il est encore, vite.
Oui, et puis là, on parle d'une seule fin de semaine, mais souvenons-nous, à Miami, à la course sprint, il roulait devant, puis il a réussi à garder des voitures beaucoup plus performantes derrière lui.
En Chine aussi, une belle performance.
Ouais. À un moment donné, Red Bull, on a souvent vu le scénario du driver swap, là, l'échange des pilotes. Il est pas un, ça, je pense pas qu'il y ait un monde qui existe où est-ce que cette possibilité-là n'est pas présente.
Il y a toujours un espoir, mais tu sais, j'attendrai avant de dire « wow, quelle performance ». Je pense que c'est très track spécifique, excusez-moi, là, pour Danny, Rick. Tsunoda montre des bien meilleurs résultats que lui en général. Fait que, oui, c'est super le fun pour lui. Est-il de retour?
C'est vrai qu'en fin de semaine, Tsunoda...
attendons de voir. Tsunoda, c'était bien qualifié aussi. Là. C'est juste qu'il y a eu un accident. Je ne me rappelle plus pourquoi. En fait, là, est-ce qu'il a glissé lui aussi?
Il a glissé.
Ouais, c'est ça.
Quel réflexe de Nico Hülkenberg.
Ouf! Hey.
Il a dit qu'il a fermé les yeux parce qu'il pensait avoir, un incident très fort avec... avec lui, puis finalement, il a réussi à garder le contrôle de sa monoplace puis à éviter le pire, mais quel moment.
C'est tout sur Williams?
Non, excusez.
Sur Williams ou sur RBV Car?
RBV Car,
pardon. Des très bons résultats en qualif, c'était super encourageant. On s'en allait faire... On s'en allait placer les deux voitures dans les points.
Ouais.
Là, Tsunoda glisse, écoute, même les meilleurs glissent, là, sans souci.
Content qu'on prolonge Yuki également. Ouais. Je pense que c'est une question temps avant qu'on prolonge Daniel également.
C'est fort dommage pour Vicar, mais ils vont se reprendre.
Si ce n'est que le troisième pilote chez Vicar a une clause dans son... Il y a une clause dans son contrat comme quoi s'il n'y a pas un volant assuré, il était libre comme l'air, mais il n'y a pas d'autre place ailleurs sur le circuit. Alors, je ne vois pas pourquoi on ferait trop de pression
il
à ce niveau-là.
Il avait eu des bons résultats, là, à voir s'il pouvait détrôner... Ricciardo à chaque week-end. Mais bon, ça demeure un bon pilote. Là.
Haas, maintenant.
Les pneus full wet.
Mais j'ai aimé cette stratégie-là, mais je pense que ça a bien payé au début, puis que par la suite, on a mal géré ça, je veux dire.
Ouais.
D'y aller, d'avoir Magnussen qui remonte, Hülkenberg aussi. Puis par la suite, ben, je veux dire, on a vu que les Haas ont fini un petit peu... un petit peu poit-poit, malheureusement.
Ils ont essayé ce qu'ils pouvaient. Au début, on voyait Magnussen qui dépassait tout le monde. C'était excitant, mais tu sais, tôt ou tard, ça allait avoir des conséquences. Oui, c'est ça, exactement.
Ouais.
Fait que, on a essayé. Tu sais, quand tu n'as rien à perdre puis tu pars loin dans la grille de départ, let's go. On essaye quelque chose. Il va savoir un safety car, deux, trois, quatre. Combien de fois on va changer de pneu? La température, ça va être quoi? On prend une chance. C'était excitant.
Mais ce que je trouve curieux, c'est qu'on n'ait pas misé sur déjà une forte mise qu'on avait déjà mis en extrême wet, en pneus, voyons,
en full
adapté
wet,
pour la pluie.
Les pneus de pluie.
Je comprends pas comment est-ce qu'on n'ait pas essayé d'établir là-dessus parce qu'on a fait un autre arrêt aux pluies dans la deuxième séquence de pluie. On aurait vraiment pu continuer en piste et justement miser sur ce succès-là. Parce que Kevin Magnussen au quatrième rang, moi, j'avais peur qu'il rentre comme une boule de bowling.
Ouais,
puis à un certain moment
il était propre.
Ouais.
Non, il n'y a plus le choix rendu là à ce stade-ci de la saison avec toutes les pénalités qu'il y a eu. Là.
Oui, t'as... Non?
J'ai plus rien à dire. Ben, en fait, ils ont essayé fort, c'est chapeau à eux. Mais finalement, parce qu'une course, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Puis ça fait que ça égalise les performances des voitures. Puis ils ont terminé où ils devaient l'être. Sans avoir réussi à miser sur leur stratégie.
Alpine maintenant. En deux minutes. Content d'avoir eu des points. C'est certain qu'Esteban Ocon allait se plaindre par la suite en disant « Moi, j'ai fait mon travail. L'équipe n'a pas fait son travail. » D'ailleurs, Esteban Ocon, qui, à mon avis, va s'en aller chez Haas avec Ollie Bearman. C'était des grosses rumeurs là, que ça allait sortir, que Ollie Bearman allait signer son contrôle. Il a peut-être signé en fin de semaine. Moi, je l'ai vu arriver. Et les gens chez Haas l'ont accueilli comme si c'était un héros et resté passer plusieurs minutes à l'attente là-bas. Par la suite, il y a un certain David Croft qui s'est mis à y jaser. Puis là, tout d'un coup, David Croft lui parle. Là, il y a un preneur de son qui arrive pas trop loin. Donc, je pense que c'est une question de jour avant qu'on annonce ça. Alpine et Ocon, je pense que on essayait de nous faire croire que tout c'était correct puis qu'on travaillait en tant qu'équipe et tout ça. Mais quand les dés sont jetés encore une fois et les cartes sont sur table, on voit que la relation est plus là du tout.
Ocon voulait quitter avant même l'incident à Monaco. Là, fait que c'est juste que là, maintenant que c'est officiel, ben là, c'est sûr qu'ils vont mettre Pierre Gasly de l'avant. On vient d'en parler, que ce soit Russell, Hamilton et autres. Fait que ils ont gentiment dit à Esteban, on va essayer d'aller rattraper Daniel Ricciardo. Pierre a un meilleur pace, un meilleur rythme. Laisse-le passer. Il n'y avait pas vraiment de chance d'aller rattraper Danny Rick. Mais tu vois, le switch, c'est instantané. On privilégie le pilote qui est là l'an prochain.
Puis, chapeau quand même à Esteban en fin de semaine parce qu'il partait avec deux strikes contre lui. Premièrement, il y avait sa pénalité de 3 places. Et deuxièmement, il y avait parce qu'ils ont un problème de poids depuis le début de la saison. Et là, ce qu'on a compris en fin de semaine, c'est que ça s'alterne d'une voiture à l'autre pendant le championnat. Ils n'ont pas encore réussi à avoir les bonnes pièces pour les deux voitures. Et puis là, c'est en fin de semaine, c'était Pierre Gasly qui avait le traitement privilégié. Donc, d'avoir terminé aussi haut et d'avoir laissé passer son coéquipier à la fin, sachant très bien que tu ne reviens pas dans l'écurie l'année prochaine, le chapeau.
Ben oui, mais Ocon a dit Pierre a la voiture la plus légère depuis le début de l'année. Il a comme lancé quelque chose de... Fait qu'est-ce qu'il alterne vraiment ou Esteban a raison ou bon?
Ouais.
C'est la frustration qui parle.
Il nous reste simplement Kick Sauber maintenant et je pense pas qu'on a grand-chose à dire. J'ai hâte de voir si Bottas va avoir un volant l'an prochain. Je le souhaite ardemment. Oui. C'est un pilote qu'on aime beaucoup. Joe Guanyu, je pense que l'expérience en Formule 1 est terminée. Malheureusement, en fin de semaine, week-end catastrophique. La voiture qui est magnifique, mais
en vrai, magnifique,
est tellement lente, ça n'a pas de bon sens. Je pense pas qu'il y a grand chose à dire.
Ben, c'est pas si terminé que ça, dans ce sens que Alpine serait peut-être sur le point de vendre à des intérêts chinois.
Ouais, on en a parlé samedi, donc référez-vous à l'épisode de samedi si vous voulez. Mais je pense pas.
Avec Renault,
Alpine,
il y a un partnership.
Ont besoin d'aller chercher un pilote plus rapide. Puis si tu as le choix, par exemple, entre Bottas et Joe Guanyu, je pense que tu vas y aller avec Bottas.
Ça aurait été intéressant de voir Joe Guanyu avec une meilleure voiture, tu sais. Il a tout le temps roulé avec un char de
MRDE. Il était pas pire à sa première saison. Sa saison a recrue avec Alfa Romeo, mais là, la voiture n'est pas là du tout.
Non.
Et tu sais, oui, des intérêts chinois, oui, de l'argent. C'est ça, je comprends. À un certain moment donné.
Renault a de l'argent, ça leur ferait du bien aussi. Là, fait que, il y a un partnership entre Renault et Geely, qui est comme une marque de voiture
en
Chine. Ouais. Donc, ça serait un bon stunt, entre guillemets, là, d'amener Joe Guanyu avec Pierre.
Qui a fait partie de l'équipe de développement.
Ouais.
Mais encore une fois, tu sais.
À voir.
Messieurs, merci.
Merci.
C'est déjà fini?
Ça fait une heure et cinq déjà qu'on parle. On va vous laisser sur cette entrevue qu'on a fait avec Frédéric Brousseau. Et merci encore une fois.
Quel week-end. Merci, Greg.
On se reparle dans 2 semaines.
Merci, Greg.
Post-Grand Prix d'Espagne.
C'est triste.
Et j'en reviens pas que c'est déjà fini.
Quel week-end,
on va aller
les gars.
Dormir un petit peu, récupérer de ce week-end de fou, reprendre nos émotions. Merci encore une fois à vous autres d'avoir été avec nous. C'est très apprécié. On se reparle dans 2 semaines, post-Grand Prix d'Espagne. Fans de Formule 1, passez-en une belle, à bientôt.
Merci beaucoup, Frédéric, de nous recevoir. C'est très apprécié. Ça doit être un week-end assez occupé pour vous.
Oui, ça change un petit peu de mon quotidien parce que mon travail n'est pas nécessairement de représenter l'équipe à chaque fin de semaine de course. Mais à Montréal, c'est à 10 minutes de la maison. Donc, je dors chez nous en fin de semaine de course. C'est très particulier. Mais c'est définitivement très émotif pour moi de faire un Grand Prix à Montréal parce que ça me permet un peu de montrer... à la population de Montréal, aux Québécois, c'est quoi la Formule 1 de l'intérieur. J'ai beaucoup de monde que je connais, des contacts d'affaires qui viennent me voir, qui me posent des questions. Donc, ça me permet un peu de faire connaître la Formule 1 à un ensemble de passionnés québécois qui, autrement, n'ont pas nécessairement accès, vu de l'intérieur, à la Formule 1. Donc, si je peux contribuer à promouvoir l'industrie au Québec, pourquoi pas?
Bien, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, quels sont les rôles dans une écurie de Formule 1? Vous êtes Chief of Operations, COO. Ça fait quoi dans une écurie de Formule 1, ça, dans une équipe?
C'est très drôle parce que ça fait un peu tout ce que personne ne voit. Quand vous venez dans une course la fin de semaine, vous voyez naturellement les pilotes, les autos, vous voyez l'équipe de marketing, le team principal, un peu le cirque de la Formule 1 qu'on dit. Mais en arrière de ça, il y a un ensemble de peut-être 1100 employés qui travaillent au centre d'administration à l'usine. Donc, c'est un peu gérer l'organisation au plan, au point des affaires, les investissements, gérer la performance dans l'organisation, gérer les livraisons, la qualité, s'assurer qu'on a un auto. S'il y a un auto ici ou deux autos qui courent en fin de semaine, c'est qu'il y a 1100 personnes en arrière, 1200 personnes qui ont... qui livre la marchandise au niveau de l'ingénierie, au niveau des opérations, la production, la santé et sécurité, la gestion des finances, les plans stratégiques. Donc, moi, je suis vraiment la personne plus business, si on veut, qui arrive avec un bagage d'affaires dans l'organisation. Puis le fait que je ne viens pas de la Formule 1 est probablement un atout parce que je ne suis pas émotif par rapport aux produits. Moi, j'ai connu les moteurs d'avion. Je connais des Formule 1 aujourd'hui. Pour moi, c'est un produit... il y a une business en arrière de ça, puis c'est ça mon travail, c'est de gérer un peu le côté business de l'organisation.
Donc, quand on entend les pilotes de différentes écuries remercier tout le monde à l'usine, tout le monde qui travaille avec l'équipe et, oui. et tout ça, bien ça, c'est l'équipe de Frédéric Brousseau à ce moment-là
oui,
qu'on remercie.
En grosse partie, oui. Puis c'est le fun parce que de travailler avec des gars comme Alex puis Logan, c'est des gens qui sont extrêmement approchables. Donc, quand ils sont... dans nos bureaux ou à l'usine, je les amène tout le temps dans l'usine, je les présente aux employés. Ils sont très confortables de faire les présentations devant les employés. Puis pour les employés, c'est de l'or. On les garde motivés justement avec les pilotes qui viennent les voir. C'est tous des passionnés. On a 1100 personnes qui sont des passionnés de Formule 1 en arrière. Donc quand les pilotes ou l'organisation de course vient dans l'usine, ça fait une grosse différence.
D'ailleurs, félicitations pour obtenir un poste comme ça dans une. Ça reste Williams, une des écuries les plus prestigieuses en Formule 1. Et vous êtes un des Québécois. Il y en a eu très peu de Québécois en Formule 1. Si on compare à d'autres sports, par exemple, qui se sont établis dans des rôles d'importance, est-ce que ça fait à peu près 3 heures que j'essaie de comment formuler ma question comme il faut, mais est-ce qu'il y a pas une espèce de pression, mais une reconnaissance de votre côté de dire « Hey, il n'y en a pas eu beaucoup de Québécois qui se sont établis en Formule 1 ici et on représente un petit peu le Québec à ce moment-là? »
Bien, c'est certain qu'il y a une pression. Je la sens un petit peu plus à Montréal. Par contre, dans le day-to-day, moi, je viens, comme je le disais tantôt, chez Pratt & Whitney, ça a été mon école dans ma carrière. J'ai fait 25 ans dans l'organisation. Puis c'est une organisation qui est extrêmement modeste. C'est une organisation j'ai grandi dans l'humilité, si on veut. C'est une organisation qui ne veut pas être dans les médias. C'est une organisation qui veut performer sans avoir de cirque, un peu comme la Formule 1 peut l'apporter. Donc moi, j'ai amené ça un peu, ce bagage-là, quand je suis arrivé en Formule 1. Donc, j'ai gardé un peu le même profil, je suis la même personne, je change pas, je suis dans l'usine à tous les jours, je vais voir les employés. Quand je suis à Montréal, par contre, je le sens. Je le ressens, la pression d'être un Québécois en Formule 1. Mais ça dure 4 jours sur un an. Donc, je suis capable de vivre avec
on
la pression
de le
sur 4 jours.
C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait plus de place pour des Québécois en Formule 1? Je sais qu'il y a un ingénieur, Frédéric Vallée, qui travaille chez Red Bull, par exemple. Il y en a probablement d'autres que je ne suis pas au courant. Bien, il y a Lance, bien sûr, et Lawrence Stroll.
On a quelques Canadiens dans l'organisation. On a une personne de Toronto, on a une personne de Hamilton en aérodynamique. Définitivement, il y a de la place pour d'autres Québécois. Je pense que la différence ou qu'est-ce qui, moi, m'a ouvert la porte à la Formule 1, c'est l'introduction du CASCAP. Sans le CASCAP, le modèle d'affaires de la Formule 1, ça reste un modèle purement et simplement Formule 1. On peut cacher les inefficacités avec des centaines de millions. Mais depuis qu'il y a le CASCAP, ça devient des business. Donc, toutes les personnes qui ont un bagage d'affaires ou un bagage d'efficacité opérationnelle, maintenant, tout d'un coup, ça devient des profils intéressants pour la Formule 1. Puis ça commence, l'efficacité opérationnelle, à être un modèle d'affaires en Formule 1, mais c'est tout nouveau. C'est depuis 2021 qu'il y a un CASCAP.
Quand on entend les pilotes parler, on dirait presque tous que le circuit Gilles Villeneuve est un de leurs 3 favoris, ou presque, là. Les gens semblent dire qu'ils aiment beaucoup la Formule 1, mais est-ce que pour vous, c'est un discours qu'on dit, bon, on s'en va dans n'importe quel Grand Prix, on dit « Ah oui, j'adore venir ici » ou quoi que ce soit, ou il y a vraiment les écuries aiment ça venir ici, les pilotes et à peu près tout le monde dans le site de la F1?
Oui, tout le monde aime venir à Montréal, définitivement. Puis au début, je posais la même question, c'est juste, vous le dites pour faire plaisir, ah, ouais. Mais c'est vrai qu'ils aiment ça venir ici pour plusieurs raisons. Il y en a que c'est parce que c'est un des plus vieux Grands Prix. Ouais. Qui a un historique en arrière du Grand Prix à Montréal qui fait une énorme différence. 2, la nourriture. Il aime beaucoup les restaurants, l'ambiance à Montréal. On a une ambiance à Montréal qu'on ne retrouve pas ailleurs en Amérique. Je sais pas si c'est l'aspect québécois qui fait la différence, mais on aime bien manger. On est une population très sociable. Fait que l'ensemble du circuit de la Formule 1 aime ce côté-là. Il y en a aussi que c'est l'accès au circuit. Curieusement, on arrive dans des places comme Singapour. C'est extrêmement compliqué de rentrer sur le circuit, sortir du circuit. Ici, c'est efficace. L'ensemble des employés dans le paddock, on rentre vite, on sort vite. Quand on veut sortir, on veut sortir. Fait qu'il y en a pour qui ça fait une grosse différence. Fait que chaque personne a ses raisons, mais tout le monde aime venir à Montréal.
Vous avez dit plutôt que Montréal est spécial parce que vous dormez à la maison, vous êtes ici, il y a votre monde et tout ça, mais est-ce que ça vous ajoute une dose de fierté de voir que les gens...
Ma plus grande fierté, c'est de voir les enfants. On a 4 enfants. Puis aujourd'hui, j'ai les 2 filles avec moi. C'est de les voir comment est-ce qu'ils regardent Alex avec des yeux qui veulent à l'envers un peu. C'est sûr que pour moi, c'est une fierté d'avoir les deux filles ici aujourd'hui. Dimanche, ça va être les 2 garçons qui vont être avec moi. Puis de les voir comment eux sont fiers. Après ça, ils en parlent avec leurs amis à l'école. Fait que c'est certain que cette partie-là vient me chercher. C'est surtout pour les enfants que je suis fier quand je suis ici.
Je vous en pose 2 petites dernières maintenant avant de vous laisser à l'équipe et à vos filles. Êtes-vous satisfait du progrès dans les deux dernières années de Williams? Et comment vous le mesurez, ce progrès-là également, qu'on voit dans l'écurie?
Je suis très satisfait. Par contre, je suis une personne compétitive. C'est jamais assez rapide. Donc, peu importe la vitesse à laquelle on va aller, ça ne sera jamais assez rapide.
Seulement, c'est bon, c'est en Formule 1.
Effectivement. Mais je suis très satisfait. Puis comment on le mesure? Il y a des éléments externes, des éléments internes. Premier élément, on vient de signer Alex pour plusieurs années.
Oui.
Donc ça, c'est la première. Si Alex, il serait pas resté avec nous autres si on s'en allait pas, ou il croyait pas un peu dans la direction qu'on a pris. Deuxièmement, on regarde la voiture aujourd'hui. La quantité de partenaires qu'on a sur la voiture aujourd'hui, c'est complètement un autre ballgame par rapport à ce qu'on avait l'année passée.
Ouais.
Donc, les partenaires croient aussi dans la direction qu'on prend dans l'organisation. Donc, ça, c'est les facteurs externes. Puis, on a beaucoup aussi des facteurs internes. Je vois la culture qui change dans l'organisation. Je vois graduellement que la culture de régler les causes fondamentales de nos problèmes techniques commence à être beaucoup plus présente. On pousse moins les problèmes en dessous de la couverte, puis on pense à la prochaine course. Donc, on adresse les problèmes un par un. On a amené du nouveau leadership dans l'organisation aussi, du monde qui vient de l'intérieur, de l'extérieur de la Formule 1. Donc, on voit graduellement les choses se placent. Par contre, ça va être long. Ça va se mesurer en années. Williams, il y a énormément de choses à faire. Mais on a une équipe de direction qui est fantastique. La nouvelle équipe, James, moi, Pat, c'est fantastique. On a une super chimie. Et d'écoute un envers l'autre. Donc, on s'en va définitivement dans la bonne direction, je suis convaincu.
Vous êtes tout un athlète de vélo, un fan de vélo également. Est-ce que de voyager partout comme ça à travers la planète, ça rend l'entraînement un peu plus difficile ou comme Valtteri puis les autres, vous avez l'occasion de sortir les vélos?
Oui. J'ai essayé quand... En fait, je faisais des farces. Hein. J'ai essayé d'arrêter quand j'ai eu un agent en Angleterre, mais j'ai pas été capable. Je pense que je ne suis pas capable d'arrêter. C'est ce qui me tient efficace dans mon travail, premièrement. Le vélo, c'est quelque chose qui me suit. C'est ancré en moi. Donc, je trouve les moyens d'en faire. Quand j'ai fait ce frappe durant les négociations de convention collective, qu'on était 2 semaines enfermés dans un hôtel, j'amenais mon vélo dans l'hôtel. Puis, je trouvais une façon. Oui, je voyage beaucoup plus. Je me promène dans ta maison, en Angleterre, des courses parfois. Donc, mais j'amène mon vélo.
Frédéric, merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous. C'est vraiment très, très apprécié.
Merci.